l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Quelques heures avant l'avant-première du film Simone, le voyage du siècle, le biopic sur Simone Veil, nous avons rencontré son réalisateur Olivier Dahan et l'actrice Elsa Silberstein qui incarne Simone Veil et qui avait la volonté de faire un film sur cette femme qu'elle a connue de son vivant. Olivier Dahan, réalisateur, sur le choix de ce personnage.
En fait, au départ, il m'a semblé que c'était intéressant de faire un portrait d'une femme politique. J'avais envie depuis longtemps. Quand Elsa est venue me voir pour me parler de Simone Veil et de son envie de voir sa vie portée à l'écran, les deux choses ont matché. J'avais envie de faire un film politique sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je trouvais qu'à travers le regard, ou en tout cas des écrits de Simone Veil, on pouvait tout à fait le faire. Et un film politique au sens large, en tout cas, voilà.
Vous avez recensé, vous, les éléments importants de sa vie, les éléments publics et également privés. Vous aviez envie, vous, de faire un combi des deux. C'était important d'amener cette dimension personnelle à la femme qu'elle était et les actions qu'elle a menées, que ce soit la loi anti-IVG, la construction de l'Europe.
Oui, c'était important d'avoir à la fois la personne publique et la personne privée. Dans des proportions en tout cas qui ne prennent pas trop le pas sur la pudeur du personnage, du personnage, de la véritable personne qui savait toujours s'arrêter à un endroit où elle devait s'arrêter quand elle devait parler d'elle-même. Donc on a respecté cette petite distance, mais on a essayé quand même d'aller un peu plus loin que juste la personne publique, bien entendu. Donc on parle dans le film de ces tragédies et de ces aussi... moment de bonheur.
Alors justement, l'importance de la déportation de la vie de Simone Veil, qui était alors adolescente. Pat Fogus, en revanche, sur sa religion, en fait, c'était une famille éminemment républicaine, juste avant la guerre.
C'était pas une personne qui faisait tellement état de sa religion, se disait juive, mais sans pour autant être tellement plus... n'aller plus loin que ça. Comme beaucoup de cette époque, ils ont découvert qu'ils étaient juifs avec une fois les nazis arrivés. Donc, elle fait partie de ces gens-là, en tout cas. Et sa laïcité, en tout cas, était aussi, son républicanisme était très ancré dans sa famille.
La vie de Simone Veil, aujourd'hui, elle marque parce qu'elle a fait avancer énormément de combats qui, aujourd'hui, sont menacés. Que ce soit au niveau des droits des femmes, que ce soit au niveau de la construction de l'Europe qui est remise en cause aujourd'hui encore avec la guerre en Ukraine. Il prend d'autant plus d'importance ce film aujourd'hui auprès des spectateurs.
Alors auprès des spectateurs, on ne sait pas encore, on l'espère. Je transmets le message en tout cas. C'est plus comme un fil électrique conducteur, un film... C'est le message en soi, c'est pas le film, c'est le message de Simone Veil qui me convient complètement en tant que citoyen, j'entends. Donc c'est un message, c'est un message de vigilance. Ce serait même un peu plus que de la vigilance, c'est un message d'action. La vigilance, je pense qu'on a déjà passé le cap. Donc on voit le fascisme qui revient en Italie également. Tout ça n'est pas, comment dire, un hasard, c'est une longue marche vers quelque chose qui s'est déjà passé. À mon sens, et comme l'histoire fait que des boucles et de plus en plus petites, et que les gens ont de moins en moins de mémoire, ce film, s'il peut être utile à remémorer quelques trucs, c'est bien.
Et la symbolique de cette avant-première ici à Strasbourg, cœur de l'Europe, donc au moins siège du Parlement, du Conseil, l'importance de la projection de ce film ici aujourd'hui?
Oui, certainement. Surtout que, à la sortie de la guerre, cette volonté, je parle là pour Simone Veil, de réunir l'Europe, de créer une Europe, c'était quelque chose de fort, c'était quelque chose de très presque philosophique et en même temps pragmatique. J'ai un peu peur que l'Europe soit devenue juste un marché économique. Donc, peut-être qu'on en paiera les pots cassés, je ne sais pas. En tout cas, il semble que les réactions en Italie soient contre cette Europe-là. Et on a l'impression qu'en fait, en ayant certainement un peu dévoyé certainement l'esprit des pionniers qui l'ont fabriqué, peut-être on s'est un peu perdu des fois.
Au niveau du casting, on est là avec Elsa Zilberstein. Vous disiez que c'était une volonté également de sa part d'incarner, je vais pas dire interpréter, c'est vraiment incarner Simone Veil. Hein.
Ah oui, tout à fait. D'incarner, ça, au sens plein, c'est-à-dire faire corps, c'est-à-dire tout mélanger, sa propre personne et celle d'une autre personne, en essayant d'interpréter, c'est-à-dire c'est pas non plus de la copie du tout, c'est d'aller au plus proche, mais on en parlera bien encore mieux que moi, mais c'est d'aller au plus proche et au plus juste, au plus honnête. C'est ça le travail des comédiens aussi.
Vous aimeriez que votre film ait une portée pédagogique et soit montré aux élèves, aux lycéens?
Le film va être montré aux élèves.
Oui.
Ouais, en tout cas, il est dans le programme. Ce n'est pas tant le film au sens, il n'est pas imposé de force. Il est proposé aux professeurs qui désirent le programmer dans le cadre d'un programme, de pouvoir le faire, en tout cas avec leurs élèves, et ça a commencé déjà. Et puis moi, je m'attache à parler de la mémoire et à essayer de transmettre un peu d'histoire, en fait. Même si le film est politique, il n'est pas d'une manière militante au sens commun du terme.
C'est un biopic, c'est l'histoire d'une femme avant tout.
Non, c'est un portrait de femme avec des tenants aboutissants politiques, parce que de fait, elle était politique.
Elsa Zilberstein à propos du scénario et du regard qu'elle porte sur Simone Veil qu'elle a bien connue.
Ah bah, la première lecture, j'étais époustouflée, quoi. Je trouvais le scénario sublime, sublime, sublime. J'avais l'impression que ça retraçait des temps forts de sa vie, comme un peu la mémoire, j'imagine, d'une femme à la fin de sa vie qui serait frappée par des souvenirs qui viendraient se cogner aux feuilles, aux cloisons de son cerveau pour lui dire « Tiens, il y a eu ça », pendant qu'elle écrit un livre de ses mémoires. Donc c'était comme un truc très brillant, avec comme on peut être dans la vie quand les souvenirs reviennent en tête. Il n'y a pas de logique forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est lié que à l'émotionnel. Et le scénario m'a vraiment bouleversée.
Vous l'avez interprété, vous l'avez incarné. Vous aviez besoin, vous, de plonger dans ses écrits, dans les messages qu'elle véhiculait. Vous aviez besoin d'incarner ce qu'elle était et les messages qu'elle voulait faire passer.
Bah, si c'était que lire, je pense que je ne peux pas incarner si je me mets juste uniquement à lire. Je crois que quand on doit prendre un rôle, il faut que ce soit viscéral ou organique, je dirais. Donc, bien sûr, lire, c'était la base. Et transmettre ou ressentir ce qu'elle voulait dire ou comprendre qui elle était profondément. Mais c'était plus de l'observation constante, obsessionnelle, de chaque mouvement, de chaque parole, de chaque geste, de chaque respiration, de chaque intonation, de trouver sa profondeur, son intime, sa douleur, sa véracité, qui elle était profondément, essayer de le trouver en moi, en essayant de m'oublier complètement, en faisant corps avec elle, comme disait Olivier, quoi, qu'il n'y ait plus de distance, quoi, et m'oublier totalement et devenir elle, hein, et essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière cette armure aussi, derrière cette apparente dureté, cette brutalité parfois, cette espèce de carapace qu'elle avait.
Vous avez partagé le rôle avec Rebecca Marder, qui a incarné, elle, Simone Veil jeune. Vous avez une cohérence entre vous. Vous vous êtes échangé, effectivement, des manies, des façons de bouger.
Non, pas du tout. On n'a pas du tout travaillé ensemble. Et je crois que, comme dit Olivier, c'est deux. Enfin, il dit que c'est deux partitions différentes. Et on n'a pas du tout travaillé ensemble. C'était comme une autre femme quand elle met son costume plus de femme politique, je dirais. C'était non, on n'a pas du tout travaillé ensemble.
Vous avez rencontré des gens, vous, de son entourage, qui vous ont parlé d'elle, la Simone intime, hein.
Je connais sa famille, en fait. Je connaissais Simone Veil, moi. Je l'avais rencontrée. Je connaissais Antoine Veil, je connaissais ses fils, et puis sa secrétaire, que j'ai beaucoup interrogée, son directeur de cabinet, des ministres avec qui elle a bossé, Serge Klarsfeld. Oui, j'ai fait presque comme une enquête, en fait. Donc, j'ai rencontré les gens et puis je prenais chaque information était utile quand j'interrogeais les gens. Je m'attachais des fois à un détail sur sa mère, sa secrétaire qui arrête pas de me dire qu'elle parlait tout le temps de sa mère. Voilà, plein de petites choses comme ça. Douste Blasi aussi m'a beaucoup, beaucoup aidée dans ce qu'il m'a dit. Après, c'est aussi beaucoup d'observations, 8 mois, 9 mois d'observations, de documents sur Lina. d'observation de toutes les émissions de télé qu'elle a fait dans les années 70, 80, 90, toutes les émissions où on s'en dit long sur sa gestuelle, sur toutes les archives que j'ai pu trouver. Et puis Paul Schaeffer aussi, qui était son meilleur ami au camp de concentration, avec qui j'ai passé pratiquement un an de préparation à le voir toutes les semaines, hein, qui était le monsieur avec qui elle était au camp à Bobrek.
Parmi les combats qu'elle a, elle a menés, bon, c'était un être sage, hein, empli de lumière, et en même temps, c'était une vraie combattante. Hein. Elle a lutté pour la condition des femmes, pour la construction de l'Europe, pour faire passer des lois. C'était une politique redoutable. Pour vous, qu'est-ce qui vous touche le plus dans tous ces combats ou dans des choses qu'elle a menées jusqu'au bout ?
En fait, ce qui me touche, c'est beaucoup de choses. C'est quand même comment cette femme est d'une résilience incroyable. Et ce qui me touche, en fait, c'est les gens qui sont des survivants dans la vie. C'est les gens qui lèvent la tête malgré tout, malgré leurs drames, malgré leurs blessures, malgré leurs failles. Et qui, malgré tout ça, malgré ce départ de vie qui est dans l'horreur, l'ignominie, l'immonde, comment elles se relèvent, en fait, comment elles décident de vivre. Ça me bouleverse. Et... comment après elle a épousé des combats qui étaient conditionnés par ce début de vie qui sont toujours liés à la dignité ou à l'injustice ou à ce que les êtres humains, quelle que soit leur faute, soient considérés ou respectés comme êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée à tous les endroits dans ces combats.
Cette force qu'elle avait, selon vous, c'était pour... masquer une forme de fragilité de ce début de vie, de ce passage dans les camps terribles où elle a perdu sa mère.
Ouais, pas que, mais oui, certainement pour moi. Enfin, pas que, c'était sa nature profonde d'être... Mais c'est vrai que, comme j'ai eu la chance de la rencontrer, il y avait cette puissance, cette dureté comme ça apparente, mais dans ses yeux il y avait totalement autre chose, donc c'était très bizarre le mélange, et quand tu regardais ses yeux tu avais envie de la prendre dans tes bras, donc il y avait énormément de sensibilité dans son regard et d'humanité qui contrebalançait totalement avec cet espace d'apparence de tailleur Chanel, de chignon, de carapace. Et effectivement, dans le film, on sent bien quand elle fait pas le journal de 20h et qu'elle va regarder cet homme qui est malade, comme elle s'attache à l'humain et qu'en fait elle s'écroule et qu'elle ne pense plus du tout à son petit pouvoir ou à son poste. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un d'hors norme et qu'aujourd'hui elle manque. En tout cas, elle n'est pas une femme politicienne pour la politique et pour son propre pouvoir, je trouve.
Elsa Zilberstein, vous avez incarné, donc on le disait, Simone, vous avez réussi à amener cette lueur qu'elle avait dans les yeux. Alors on parlait de fragilité, de force, je trouve que c'est intimement lié. Mm-hmm. Il y a une sorte de projection, parce que je pense qu'elle croyait en l'avenir, ouais. en l'avenir de la France et puis de cette construction européenne. Elle voulait amener le meilleur de l'humain. Ouais. Elle se projetait ainsi. C'est quelque chose que vous aviez quand vous regardez là. Je vous vois dans votre fauteuil en face de la mer, dans sa maison de la Ciotat, où elle passe ses jours en écrivant ses mémoires. C'est ce que vous aviez
en tête. Je crois
qu'elle
croyait profondément en l'humain. C'est ça qui était troublant et incroyable. D'ailleurs, après ce début de vie terrible, elle avait une profonde foi dans les êtres humains.
Toujours. Elle l'a pas
perdu. C'est ça qui m'a hallucinée, en fait, dans cette manière. Elle n'était pas... Elle avait une colère, forcément, qui était là, mais je trouve qu'elle avait une foi et une sorte de conviction qu'il n'y a pas de fatalité dans cette résurrection ou dans cette... alors que son début de vie était que de la destruction. Et ça, c'est très beau.
Elsa Zilberstein, merci.
Merci.
Simone, le voyage du siècle, sorti le 12 octobre.
L'invité de la rédaction. Valérie Vial.